Y a-t-il une nature humaine? Les références. Alors, normalement, dans tous les groupes, on a vu les références à Hobbes et Rousseau, donc par rapport à la question de l'état de nature, le rapport entre la nature et la société. Et on a travaillé sur le petit extrait du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau, donc l'extrait sur la pitié. Et l'idée de Rousseau, je rappelle, c'est que la pitié, c'est-à-dire plutôt l'empathie, on dirait aujourd'hui, ou la compassion, c'est un sentiment naturel donc, qui nous vient de la nature, qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris à compatir avec les autres, et c'est ce sentiment qui nous fait bien agir, nous fait agir moralement. On n'a donc pas besoin d'apprendre à bien agir, on a ce sentiment en nous qui fait qu'on agit bien. Donc ça, c'était la thèse de Rousseau pour la résumer. Le texte de John Stuart Mill, donc je vous laisse un petit temps pour l'écouter et essayer, donc l'idéal ce serait que vous essayiez de répondre aux questions par vous-même et ensuite moi je vais répondre aux questions. Alors ce texte de Mill, c'est vraiment l'exact opposé, c'est la thèse, c'est l'antithèse, hein, voilà, c'est l'antithèse de Rousseau. J'aurais aimé avoir un texte de Hobbes aussi clair et aussi exactement opposé à celui de Rousseau. J'ai pas trouvé. Donc en fait, j'ai choisi ce texte de Mill qui est très très bien et vraiment à l'opposé. Donc on dirait presque que Mill, dès le départ, critique Rousseau. Ça n'est d'ailleurs pas impossible, hein, puisque Mill, c'est le 19e siècle, donc c'est postérieur à Rousseau, c'est même probable, parce que la thèse de Rousseau est extrêmement connue et discutée. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en gros, on croit que la bonté, c'est quelque chose de naturel. Rousseau, par exemple, croit que la bonté, c'est quelque chose de naturel, ça vient de ce sentiment de pitié ou ça vient de la conscience morale qu'on aurait comme ça de manière innée en nous. Émile nous dit, eh bien, pas du tout, du tout. En fait, ça ne vient pas à la bonté de la nature, mais c'est quelque chose d'absolument artificiel. Vous avez ben voilà, soulignez-le, l'adjectif artificiel, vous l'avez deux fois dans le texte, peut-être même trois d'ailleurs, je ne l'ai pas sous les yeux le texte, je fais ça comme ça de mémoire. Donc vous avez le mot artificiel, le terme artificiel qui est répété plusieurs fois dans le texte. Et qu'est-ce qui est artificiel? Eh bien, c'est justement ce qui n'est pas naturel, c'est ce qui a été créé par les hommes. Si on agit bien, eh bien c'est parce qu'on a bien appris nos leçons, on a bien appris les règles de morale qui sont celles de notre famille, qui sont celles de notre société ou qui sont celles de notre voilà, de l'école, du lycée. Il y a tout un tas de règles qui nous sont apprises, qui nous viennent de l'éducation et qui, au bout d'un moment, en fait, deviennent extrêmement voilà, deviennent spontanées, deviennent naturelles, entre guillemets, puisqu'on a tellement l'habitude d'utiliser ces règles, on a tellement l'habitude de bien se comporter, que par conséquent, eh bien, ça a l'air naturel. Et j'avais évoqué cette expression dans l'exercice numéro 1 qu'on avait fait pour entamer en fait la réflexion sur le sujet y a-t-il une nature humaine? Je vous avais parlé donc de cette expression une seconde nature. Une seconde nature, on avait dit que c'était quelque chose qui était acquis, mais qui était tellement habituel, qui était tellement spontané à faire pour nous que ça paraissait naturel. Donc la seconde nature, eh bien là, qu'est-ce que c'est? C'est la morale, c'est la bonté. J'agis bien, c'est une seconde nature, j'ai l'impression que c'est naturel, mais en réalité, c'est le fruit de l'éducation, c'est le fruit d'une éducation hautement artificielle, d'ailleurs, nous dit John Stuart Mill ici. Et la conséquence de ce que nous dit John Stuart Mill, eh bien, c'est que la bonté, ça n'est pas du tout naturel, c'est artificiel. Et donc, qu'est-ce qui est naturel en l'homme? Pourquoi est-ce que l'homme a dû créer cette bonté Eh bien, on en revient donc à la thèse de Hobbes, et c'est pour ça que John Stuart Mill, il est vraiment dans la continuité de Hobbes, dans la lignée de Hobbes. C'est le même, en tout cas sur cette question-là, c'est le même style de philosophie. Donc, ce qui est naturel, du coup, eh bien, ça n'est pas du tout la bonté, c'est au contraire les mauvais sentiments, les sentiments égoïstes, la recherche de l'intérêt personnel, l'agressivité éventuelle, la tendance au conflit, tout ça, c'est ce qui est naturel. Et étant donné que les hommes, ils peuvent pas trop vivre en paix dans ces conditions-là, ils sont obligés d'inventer, de créer des lois qui sont des lois morales qui les poussent à bien agir les uns envers les autres, ce qui va créer de la paix, de l'ordre, et il n'y a que la société qui soit capable de créer cet ordre-là et cette paix et cette harmonie entre les êtres humains. Alors, j'espère que c'est clair pour John Stuart Mill. C'est le contraire de Rousseau. C'est la lignée de Hobbes. Et maintenant, on va passer au texte numéro 3, qui, là, c'est ni Rousseau, ni Hobbes. C'est une autre thèse, en fait. C'est un autre type de considération sur cette question de la nature humaine. Donc, c'est le texte de Merleau-Ponty. De la même manière que je vous ai demandé de faire une petite pause pour aller écouter ce texte et essayer de répondre aux questions, je vous laisse faire ça maintenant et on revient ensuite pour répondre à ces questions. Alors, la première question sur le texte de Merleau-Ponty consistait à se demander si pour cet auteur, il était possible de distinguer, comme essaye de le faire en fait Rousseau et comme essaye de le faire John Stuart Mill. Donc, s'il était possible de distinguer ce qui vient de la nature et ce qui vient de la culture. Or, eh bien là, la réponse est non. On ne peut pas dire tel sentiment, tel comportement, ça vient de la nature, et tel sentiment, tel comportement, ça a été créé par les hommes. En fait, il n'y a rien de complètement créé. Les hommes, ils créent à partir de ce qui leur vient de la nature et ils transforment ce qui leur vient de la nature. Et donc, du coup, au bout d'un moment et même assez vite, ce qui est naturel est transformé, est développé et parfois même perverti. Peut-être, mais en tout cas, ça n'est plus à l'état naturel et ce n'est pas non plus quelque chose de complètement artificiel. Contrairement à Mill, en fait, Merleau-Ponty refuserait cette idée qu'il y ait un quelconque sentiment ou une quelconque conduite humaine qui soit totalement artificielle, c'est-à-dire créée à partir de rien. Et du coup, vous pouvez souligner dans le texte cette citation que vous pouvez même apprendre d'ailleurs. N'hésitez pas à apprendre des formules, ce sera très très joli dans vos dissertations. Donc, cette formule que vous trouvez. Donc, dans le deuxième paragraphe, il est impossible de superposer chez l'homme une première couche de comportement que l'on appellerait naturel et un monde culturel ou spirituel fabriqué. Et soulignez bien, tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme. Alors voilà pour notre question 1 et j'ai posé juste une question supplémentaire par rapport à ce texte qui porte sur le premier paragraphe. Donc on revient en quelque sorte en arrière. Dans le premier paragraphe, il y a toute une série d'exemples et je vous demande de souligner ces exemples. Alors, je vais aussi rajouter, parce que j'ai pas posé la question, il y a une comparaison qui est faite et qui est assez importante. Donc, on va aller regarder les exemples, on va en effet les souligner, on va voir ce qu'ils ont d'intéressant et en quoi consiste cette fameuse comparaison. Alors, les deux premiers exemples utilisés, c'est crier dans la colère et embrasser dans l'amour. Ces deux exemples, ce sont deux exemples de conduite qui ont l'air entièrement naturels. Je suis en colère, je crie, bah oui, c'est normal, je crie, je suis en colère, c'est naturel de crier dans la colère. Et de la même manière, eh ben, si j'aime quelqu'un, je vais l'embrasser. Alors ici, embrasser, c'est, je pense, au sens assez large, hein. C'est le fait de prendre quelqu'un dans ses bras, hein. Ça, c'est le sens initial d'embrasser quelqu'un, c'est de le prendre dans ses bras. Donc, ce serait aussi quelque chose d'un mouvement naturel envers autrui, de l'embrasser quand je l'aime. Sauf que, eh bien, Merleau-Ponty, il refuse cette idée. Pour lui, il n'est pas. Alors, c'est intéressant l'expression, c'est pas ni plus naturel ni moins conventionnel. Donc, ça veut dire que ça n'est pas quelque chose d'artificiel de crier dans la colère, mais c'est une manifestation qui est souvent le cas dans notre culture. Pas toujours, il y a des gens qui sont en colère et qui ne l'expriment pas sous la forme du cri, et vous allez avoir des cultures où vous n'aurez pas le droit d'exprimer la colère de cette manière-là, où il y aura éventuellement d'autres types de manifestations pour cela. Et de la même manière, l'embrassade, qui est très tactile, finalement, cette embrassade, c'est quelque chose qui est le cas. Par exemple, dans les cultures un peu méditerranéennes, où on va s'embrasser facilement, par contre, dans le nord de l'Europe, on va être beaucoup moins tactile, même envers les gens qu'on apprécie. C'est une affaire en grande partie de culture. Les sentiments sont naturels, les mouvements sont en partie naturels, mais aussi en partie façonnés par la culture à laquelle on appartient, et une des cultures que Merleau-Ponty prend ailleurs en exemple, c'est la culture japonaise qui repose sur une répression un peu plus forte des manifestations de l'émotion. Il ne faut pas manifester ses émotions, ça n'est pas quelque chose d'acceptable ou de poli que de trop montrer sa colère, son amour, etc., dans la culture japonaise. Et ensuite, ce qui se passe dans le texte, donc c'est une comparaison avec le langage, en fait. Crier dans la colère, c'est comparer ici au fait de dire table et d'associer ce mot table ou ce son table à l'idée de la table et de faire référence donc à la table, l'objet que j'ai en face de moi. Alors, comment comprendre cette comparaison? D'abord, un mot, c'est un élément d'une langue. Or, on sait que les langues humaines, elles sont toutes différentes puisque les êtres humains inventent les mots qu'ils utilisent, et malheureusement, c'est à cause de ça qu'on a souvent du mal à se comprendre entre êtres humains. Et même quand on parle de la même chose, eh bien, en fonction de la culture à laquelle on appartient, on n'utilisera pas les mêmes mots et donc on ne se comprendra pas. Et pourtant, eh bien, on dit la même chose. Ce qu'on dit, ça renvoie à une façon de percevoir les choses, le monde, etc., qui finalement est commune, même si après il peut y avoir des différences, justement, en fonction de notre langue. Bon, on a vu ça avec les Himba, sur la question des couleurs. Mais bon, globalement, si je vois une table et que je trouve cette table belle, je peux l'exprimer en français en disant cette table est belle, ou je peux l'exprimer en anglais en disant The table is beautiful. Dans les deux cas, je dis la même chose, mais j'utilise un langage différent. Donc il y a une partie qui est d'une certaine manière naturelle et une partie qui est conventionnelle, et en fait les deux sont mélangés. Eh bien en fait, c'est pareil pour l'expression des émotions, même si ça a l'air naturel de crier ou d'embrasser, eh bien non, ça ne l'est pas, c'est comme des mots. Mais c'est pas complètement artificiel non plus. Bon, j'espère que c'est à peu près clair pour ces deux premiers exemples. Ensuite, vous avez le troisième exemple du premier paragraphe, c'est l'exemple de la paternité. Cette fois-ci, on n'est pas dans l'émotion, on est quand même plutôt dans un sentiment assez complexe. Il s'agit du lien qui unit le père à l'enfant. On peut considérer que c'est quelque chose de naturel, de même que la maternité, mais finalement, c'est un sentiment qui est en partie, alors Merleau-Ponty utilise institution, c'est un sentiment qui est en partie créé par la société à laquelle on appartient, par le fait de savoir que l'on est le père, par le fait de reconnaître qu'on est le père de quelqu'un. Et vous avez des sociétés où en fait cette paternité n'existe pas. Vous avez par exemple une tribu, une tribu en tout cas un peuple en Chine. Un peu isolé, qui est un petit peuple, voilà, qui a très peu de contact avec les autres, qui s'appelle les Na, et les Na, ou Nashi. Et en fait, chez les Na, la façon dont est organisée la société fait que les relations sont de couple sont en fait assez libres. Il n'y a surtout pas de relation de couple. Les femmes ont plusieurs amants, si bien que on ne sait jamais, quand il y a un enfant, on ne sait jamais qui est le père. Et donc, les pères ne sont pas attachés à leur enfant puisqu'ils ne savent pas qu'ils en sont le père. Et les hommes qui s'occupent des enfants, en fait, ce sont les frères. Les frères de la femme. Donc c'est une toute autre organisation de la famille. Donc même par rapport à ces faits qui ont l'air très naturels, le lien du père à l'enfant ou même de la mère à l'enfant, alors pour la mère c'est un peu plus compliqué puisque bon, on sait toujours qui est la mère évidemment, mais en tout cas pour la paternité, c'est en effet problématique et il peut parfaitement y avoir une société humaine sans existence de la paternité. C'est une institution. Et du coup, ça m'a donné l'idée de vous rajouter un exemple pour dans la série des exemples que je vous ai donnés. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'audio concernant les exemples si ce n'est pas encore fait. Je vais vous rajouter l'exemple d'Ena parce que c'est un exemple très très intéressant sur cette affaire de nature-culture. Voilà, bon, ben, je vous laisse là-dessus et à bientôt. Bon courage pour votre dissertation.